Voilà, alors ce matin, j'avais beaucoup de messages après ce temps sabbatique que j'avais, suite au mois famille, qui a duré 3 mois. Vous verrez que la suite, là, je n'aurai pas l'occasion beaucoup de vous enseigner, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Hein. On en parlera tout à l'heure. D'ici le mois de juin, ce sera très très chargé d'invités, en particulier d'invités RNC, qui repassent et qui pourront eh bien, refaire le lien avec vous. Et ne serait-ce que la semaine prochaine, on a le président de RNC, Jean-Marc Potenti, qui sera avec nous. Ce que je voudrais aborder ce matin, c'est de reprendre à ma façon. Hein, vous avez vu que Michel et moi, on n'est pas pareil. Hein, à ma façon d'enseigner ce qui s'est passé entre Saül et David. Et ma façon, c'est quoi? Ma façon, c'est une façon plus scientifique d'aborder la Bible. Michel, c'est une façon linguistique. Elle utilise d'ailleurs, elle vous le dit, la méthode structurale. Hein, l'approche systématique du texte, manière structurale, ce qu'on fait d'ailleurs avec Georges Ladd, pour ceux qui suivent la théologie de Georges Ladd. Donc voilà, c'est une approche analytique et structurelle. Moi, c'est une approche scientifique. C'est quoi la différence? La différence de l'approche scientifique, c'est de dire il y a une réalité autour de nous. La réalité, c'est quoi? C'est la vie, la mort. C'est on existe, on n'existe pas. C'est qu'il y a autour de nous des gens. Il y a le monde, le matériel. Il y a des anges, tout un tas de choses. Cette réalité, comment est-ce qu'on est en contact avec cette réalité? Et il y a deux manières d'être en contact. C'est ou la réalité, c'est une vraie réalité, donc on est dans le vrai, dans la vérité, et c'est Jésus, ou on est dans la philosophie. Il n'y a que deux philosophies humanistes. Hein. La philosophie humaniste, c'est une spéculation sur la vérité, sur ce qui se passe autour, et on élabore un système d'explication de cette réalité. Moi, j'ai vu en tant que scientifique que, parce que voilà, j'étais ingénieur pour ceux qui ne savent pas à l'aérospatiale et j'ai construit, enfin, j'ai participé à la construction de fusées et de satellites. Et j'ai vu qu'à chaque fois que des collègues, ingénieurs comme moi, n'avaient pas la même intuition que moi, j'étais très très observateur de la réalité, faisaient des choses, je savais qu'ils allaient se planter. J'ai dit à Michel, hey, mon collègue là, voilà, il se prend la tête, ben, il va se planter. Parce que la réalité va le rencontrer. Et ça n'a pas loupé, chaque fois il se plantait. Parce que voilà, il avait une approche plus intuitive des choses. Moi je dis, cette réalité-là, elle va produire du fruit. Cause effet, enfin, c'est la maison d'Élie et tout ça. C'est pour ça qu'on aime beaucoup la maison d'Élie, parce que c'est comme ça que fonctionnent les Sandford qui ont créé la maison d'Élie, le ministère de la maison d'Élie. Et ils utilisent justement des principes physiques aussi. Voilà. Et je m'appuie sur Colossiens. Dans l'épître aux Colossiens, vous savez, l'épître aux Éphésiens, c'est pour l'Église et magnifie l'Église. L'épître aux Colossiens magnifie le Christ, l'autorité et la puissance de Christ. C'est magistral. Vous pouvez lire ça à l'infini, le livre des Colossiens, et vous découvrirez toujours des choses absolument incroyables sur Christ et l'autorité de Christ. Il est dit que tout est centré sur Christ. Tout est centré sur Christ. Parce que Dieu a tout créé en Christ. Donc moi je pars de ce principe scientifique, c'est que si tout a été créé en Christ, y compris les atomes, la matière, l'homme et la femme, bien sûr, l'Église, tout est centré sur Christ. Christ est au centre de toute chose. Et là, on ne peut plus se tromper dans la réalité. Oui. Maintenant, comment comprendre ça? Comment modéliser ça? Moi, j'aime bien les modèles parce que j'étais un peu à l'origine, au départ, quand il y a les modèles qui sont arrivés chez les informaticiens. Hein. Au départ, quand moi j'ai fait mes études pour fabriquer les avions, les hélicoptères, enfin, j'ai participé à ces projets-là, eh bien, on avait une règle à calcul, on avait des premières calculettes, et on faisait tout à la main avec des analogies, avec des sinus, des cosinus, et machin, etc. Et petit à petit, j'ai vu arriver dans l'entreprise des logiciels où, quand vous cliquez, vous dessinez une aile d'avion, le calcul se fait par derrière et s'affiche le coût de cette aile. Si vous avez un objectif que l'aile ne doit pas coûter plus de 3000 euros, eh bien, là, il faut recommencer pour chercher une autre structure. Vous voyez, tout est intégré. C'est un modèle qui intègre les coûts, qui intègre la mécanique des fluides, la mécanique quantique, la mécanique aéronautique, et tout, quoi. Donc, il y a des modèles derrière. En météorologie, aujourd'hui, les modèles ont avancé. C'est les plus gros ordinateurs du monde pour la météo, parce qu'il faut tenir compte de toute la réalité autour. La température de l'océan, c'est extrêmement important. L'air, etc. Voilà. Et plus vous avez des modèles qui sont proches de la réalité, bah plus vous pouvez anticiper. Et s'attendre à ce que cette anticipation donne du résultat qui est conforme à ce que vous attendez. Sinon, vous plantez. Donc, voilà comment je fonctionne. Donc, moi, je cherche des modèles. Est-ce que Dieu a mis des modèles dans sa création? Et ça fait plus de 30 ans que je cherche ces modèles. Et au départ, je l'ai trouvé, mais je n'avais pas toute l'approbation de la parole de Dieu dans ce modèle. Et là, maintenant, je peux vraiment l'affirmer. Vous pouvez venir me voir. Moi, je n'ai pas peur. Si le modèle est vrai, c'est le modèle qui aura raison. Donc, quelles que soient les objections, au contraire, ça va renforcer le modèle s'il est vrai. Donc, je n'ai pas peur de la contradiction. Je n'ai pas peur. Parce que ce n'est pas moi. C'est un modèle que je trouve dans la Bible. Alors, c'est quoi ce modèle? Alors, je l'ai mis ici parce que en live, je dessine pas très bien. Je ne peux pas dire que c'est très bien dessiné, mais voilà. Je considère que ce modèle-là, c'est le modèle qui est dans la Bible. C'est le modèle qui est tout centré sur Christ. C'est-à-dire ici, c'est Christ. Mais tout est centré sur lui. Ici, c'est le modèle de la philosophie. C'est un modèle que vous tous, vous utilisez, parce que vous êtes en Occident, et que vous, et que nous, et que moi, si je ne suis pas conscient, je suis influencé par ce modèle dualiste qui nous vient des Grecs. Alors, non seulement nous, alors on pense, oh oui, mais je suis chrétien, non, ça n'a rien à voir. Augustin, saint Augustin, qui était le père de l'Église, un des pères de l'Église au 5e siècle, ensuite après Thomas d'Aquin et d'autres, et ensuite même les réformateurs, etc. On a tous été baignés dans cette philosophie qui d'ailleurs s'est développée quand Dieu a arrêté de parler. C'est intéressant. Dieu s'est arrêté de parler, le dernier prophète Malachi, c'est moins 450 ans. Et c'est là que les philosophes sont apparus. C'est l'homme qui a parlé. Intéressant. Philosophie démarre quand Dieu arrête et que les hommes prennent le dessus. Entre Malachie et Jésus, il n'y avait plus de prophète. Dieu s'est arrêté. Le silence de Dieu. Les hommes ont parlé. Socrate, Platon, Aristote, Zénon, etc. Et toute notre approche de la réalité s'est basée sur ça. Y compris les chrétiens, s'ils ne font pas un lavage de cerveau. Ce que j'appelle un lavage de cerveau. Et reprendre conscience que nous sommes dualistes. Et que si nous raisonnons avec trois éléments, nous ne pouvons pas accéder à la vérité de la parole. Or, vous allez voir comment je raisonne, moi, entre Saül et David, ce qui s'est passé. Que Saül est passé de ce modèle-là à celui-là, alors que David est resté sur ce modèle-là. Alors, tout commence par la Trinité. Ce modèle-là, c'est déjà un modèle au cœur de la divinité. Ça s'appelle le bouclier de la Trinité. Si vous regardez sur Internet, Wikipédia, bouclier de la Trinité. Ce bouclier, ça veut dire que c'est une protection contre toutes les erreurs doctrinales, et en particulier pentecôtisantes et charismatiques, qui explorent des domaines qui sont prophétiques, etc. Et là, on ne sait plus, prophétique, est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est moitié-moitié? Est-ce que c'est 40? Ouais. Et le bouclier, la Trinité, ceux qui s'éloignent de ce bouclier, ils sont en danger d'hérésie. C'est la Trinité. Et nos aînés, les pères de l'Église, qu'on appelle jusqu'au 5e siècle, ils ont mis 4 siècles de débat à élaborer ce modèle. Et c'est le credo. C'est dommage ou le symbole des apôtres. C'est dommage qu'on le dit pas plus souvent ensemble, le credo. On connaît le Notre Père, mais pas le credo. Alors que le credo explique la Trinité. Qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, vous avez Dieu qui est un. Il y a trois niveaux de réalité ici. Dieu qui est un. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. C'est le chemin Israël. C'est la révélation de Dieu à Moïse. Je suis celui qui suis. Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Et il est indivisible. Il est un. Ça, c'est le premier niveau de réalité. Le deuxième niveau de réalité, c'est qu'il est trois aussi. Et les trois fondements de cette unité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok ? C'est pas compliqué, ça. Et ensuite, il y a des relations entre ces personnes, qu'on appelle les personnes, moi je préfère le mot hypostase, qui est utilisé dans le bouclier de la Trinité, qui sont les fondements, qui sont les colonnes de cette unité indivisible. Le troisième niveau, c'est qu'il y a des relations. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, par exemple, vous voyez cette relation intime entre le Père et le Fils. Il y a une relation entre le Père et le Fils. Et cette relation amène une dynamique de puissance et de créativité. Là, on pourrait passer des heures et des heures dans l'enseignement sur cette dynamique entre le Père et le Fils. Il y a une relation entre le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que je vous enverrai mon esprit. » Et c'est un esprit de puissance, un esprit de résurrection, parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui amène l'onction sur ce que nous faisons pour amener la puissance dans ce que nous faisons dans notre ministère. Ce sont les opérations du Saint-Esprit. C'est une relation opérationnelle, dynamique et créative. Et nous avons besoin de compter sur le Saint-Esprit pour agir. Ça, c'est le temps de l'action. Et il y a une relation entre, bien sûr, le Père et le Saint-Esprit. Ça, c'est une relation de stratégie. C'est-à-dire savoir comment, dans le temps, on va arriver à la finalité de ce que Dieu a prévu au départ. Vous voyez, c'est une stratégie. C'est un mot militaire, stratégie, c'est d'arriver là-bas. Et ensuite, après, il y a une tactique pour y arriver parce que l'ennemi est là. OK, on a un combat. Mais vous avez vu que le combat, il était gagné par Jésus. Hello ? Parce que le Saint-Esprit a donné l'autorité à Jésus pour résister à l'ennemi. Parce que quand il est venu, Jésus, il est venu pour une seule chose, c'est détruire les œuvres de Satan. C'est un combat spirituel. Il n'est pas venu pour établir l'homme dans son originalité de la Genèse. Ça sera fait après le retour de Jésus. On n'y est pas encore. Attendons avec patience et avec persévérance. Voilà, donc je termine sur ce modèle-là qui est le modèle de la Trinité. Et ce modèle, Dieu l'a utilisé pour la création. On voit l'empreinte de Dieu. Paul dira, en Jésus-Christ, on voit l'empreinte de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Si vous avez connu le Fils, vous avez connu le Père, dira Jésus à ses disciples. Vous ne me connaissez pas. Les disciples, sans arrêt, ils cherchaient à connaître Jésus parce qu'ils attendaient autre chose. Ils étaient dans un modèle dualiste. C'est quoi le modèle dualiste ? C'est un modèle humaniste. Un modèle humain, un modèle qui est basé sur soi. Comment il fonctionne ce modèle ? Ben, ça n'a rien à voir avec celui-là. C'est qu'il y a l'établissement dual, ça veut dire deux, dualiste. C'est un modèle qui dit qu'il y a du bien et du mal. Ça vous dit rien ça ? L'arbre de la connaissance. Okay ? L'autre, c'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance, il y a du bien et du mal en toute chose. Ça vous dit pas ça, quelque chose ? Hindouisme, bouddhisme, nouvel âge, tout ça, voilà. D'ailleurs, Jérôme le sait, parce qu'il a voulu témoigner un gars qui a livré le truc, et il a dit, moi, tous les soirs, j'adore Satan, je prie Satan. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, parce qu'il y a du bien et du mal partout. il faut que le mal compense le bien et le mal compense. Et en quelques secondes, il a résumé tout l'esprit du Nouvel Âge, tout l'esprit du dualisme. Parce que le dualisme, d'ailleurs pour ceux qui ont fait l'université, ça s'appelle le paradigme de puissance, que Roger Nif l'a très bien expliqué et que je vous ai fait écouter. Le paradigme de puissance établit le fait qu'il y a, alors ça c'est Aristote hein, qui l'a expliqué, a et non a. C'est un outil excellent pour bien définir les choses. Attention, il peut servir à bien définir les choses. Ça veut dire que ça, ça existe, et ça, ça existe, mais c'est le contraire de ça. Et qu'est-ce que je choisis ? Ben, je choisis le bien. OK ? Le problème, c'est que si vous généralisez cet outil-là, le bien, c'est ce que je pense moi. Et donc, je diabolise l'autre pour me justifier que je pense bien. Vous voyez, du coup, vous voyez la rhétorique qui s'installe, où on diabolise l'autre pour être sûr que ce que je pense, c'est bien. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une spéculation de notre part. Et tout l'Occident a été pollué par ça. Et nous sommes pollués par ça. Le bien, c'est considérer le ciel. Et comme par hasard, le mal, c'est la terre. Donc il faut que la terre... Et comme par hasard, ça explique pourquoi les femmes ont toujours été dégradées, enfin voilà, diminuées, à cause de ça. Et pour ceux qui veulent voir comment j'applique ce raisonnement sur le ministère féminin, je vais faire une conférence là-dessus. Vous pourrez l'écouter pour voir comment on raisonne. Ici, le ministère féminin, c'est que la femme est là. La matière, c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui n'a pas la raison supérieure. L'homme, c'est la raison. L'homme, c'est celui qui peut se séparer de toutes les influences de la matière, de cette frivolité féminine. Vous voyez, tout est... Bon, je pourrais vous parler des heures là-dessus. Lisez les livres de Leanne Payne, La crise de la masculinité. Sur ces livres... Elle a mis 4 ans pour écrire chaque livre. C'est un testament. Et elle a prié là-dessus pour qu'elle puisse donner à la génération suivante le quintessence des sujets qu'elle aborde. Et la crise de la masculinité, elle explique très très bien, effectivement, que le féminin a été complètement mis du côté du mal. C'est le mal, par excellence. Donc, même les droits de vote, vous les femmes, vous l'avez en France que depuis, j'ai pas la date, 1944. Il y a des siècles et des siècles qui ont passé où vous n'avez jamais eu droit de citoyen. Et dans la religion, dans le modèle hellénique, grec non plus. Alors que dit la Bible ? La Bible dans Galates dit il n'y a ni homme ni femme. Waouh ! Mon modèle là, il chavire quoi. Où est-ce qu'il y a la supériorité et l'infériorité ? Elle n'existe plus. Vous voyez ? En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Bref, je dirai ça dans la conférence que je vais faire pour vous expliquer ça. Donc le modèle dualiste. Et là, à partir de ces deux modèles, alors il y a deux manières d'utiliser ce modèle. Un modèle qui rejette l'un au détriment de l'autre. Et le modèle le plus sophistiqué, c'est dans l'ésotérisme. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans nos mœurs actuelles. C'est l'androgynie. L'idéal, c'est de fusionner l'homme et la femme, et ça, c'est être divin. Vous êtes divin quand vous fusionnez les deux à l'intérieur de vous-même. C'est la kundalini, c'est la capacité de devenir Dieu en ayant toutes les capacités en même temps. Vous voyez, c'est de l'orgueil. Mais c'est ça qui est diffusé dans ce que vous êtes en contact actuellement au niveau de la société. Revenons à Samuel et David. Mais pour y revenir... Il faut d'abord que j'explique que ce modèle-là, dans la création, il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ni Dieu, mais il y a autre chose. Il y a Christ qui est au centre. Christ qui était un et indivisible. Alors Christ, on peut le dire par Messie, hein, c'est le même mot, Messie, en hébreu, et Christ, dans le Nouveau Testament, qui s'appelle « Oint ». Voilà, loin de Dieu, loin, celui qui est loin de Dieu, en qui tout a été créé, par Dieu, eh bien, est au centre de ce modèle pour tout ce qui est création. Je ne parle pas de divin, création. Il est un et indivisible. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui, les scientifiques, même dans la matière, ils trouvent Christ. J'en ai parlé avec Samuel à l'époque où il était à l'école d'ingénieur, qui est l'école spécialisée dans la physique au niveau de la France. Et il m'a dit, ouais, les profs déjà à son époque, ils sont perplexes quand ils vont au CERN, qui cassent les molécules, vous voyez, avec le grand générateur. Ils disent, il y a du spirituel là-dedans, on ne comprend pas. Et aujourd'hui encore, après Einstein, Heisenberg, qui ont mis en place la physique quantique, je me suis renseigné, ils ne savent toujours pas quel modèle utiliser pour expliquer les deux choses. Il n'y a toujours pas de modèle. Ils ne trouvent pas. Parce que le modèle est en Christ. S'ils vont en Christ, ils vont trouver. Alors là, c'est un saut de la foi. Parce que Christ, vous ne pouvez pas le mettre en boîte. Mais la Bible, le Colossien le dit, tout est centré en Christ, pour Christ, avec Christ. Donc, ce modèle-là, créationnel, au centre, il y a le Messie. Et là, ce sont les trois offices. C'est quoi les offices ? L'office est une charge qu'on doit remplir. L'office de magistrat, l'office de notarial, l'office... Aujourd'hui, on a encore des offices, mais voilà, c'est moins utilisé, on ne pense pas trop à l'office. L'office, c'est une charge officielle qu'on doit remplir. Et Dieu a créé trois offices. Qu'est-ce qui peut me les citer ? Vous les connaissez, les trois offices ? Pardon ? Roi, prêtre et prophète. Roi, prêtre et prophète. Ce sont trois invariants qui existent dans l'économie de Dieu, dans l'économie du royaume. Roi, prêtre et sacrificateur, prêtre, sacrificateur. Je préfère le mot sacrificateur parce que prêtre, les catholiques l'ont utilisé en déviant par le latin, etc. Enfin, presbytéros, tout ça, c'est un amalgame pas possible, je ne vais pas vous en parler. Je préfère sacrificateur qui vient des sacrifices. Sacrificateur, la sacrificature, elle est là. Le sacerdoce, il est là. La royauté, le roi, celui qui règne, celui qui conduit les choses, il est là. Il faut un conducteur. Il faut des conducteurs. Et ici, c'est le prophétique. C'est le peuple prophétique. C'est pas le prophète. Le prophète, c'est les dons prophétiques, c'est autre chose. Ils sont là, mais là, je ne rentre pas dans les détails de ce modèle. Ici, c'est l'aspect prophétique. C'est l'office de prophète. Et alors là, vous pouvez décliner ce modèle-là, puisqu'il est vrai. Il décrit la vérité qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ étant toujours au centre. Et bien dans ce modèle, vous avez au commencement, quand Dieu appelle Abraham. Il appelle Abraham, il appelle Isaac, il appelle Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont les patriarches. Ensuite, après, vous connaissez l'histoire de Joseph, où le peuple va aller en Égypte. En Égypte, ils deviennent un peu très nombreux et ils sont opprimés par le Pharaon. Ils crient à Dieu. 450 ans d'esclavage. Dieu entend leur cri, il les sauve et il leur donne un conducteur, Moïse. Moïse, vous pouvez le mettre ici dans cette économie de l'Ancien Testament, Moïse sera le conducteur pour libérer le peuple. Moïse, il a rencontré Dieu au Sinaï, au Mont Sinaï, pour instituer le peuple. C'est là que, d'une tribu, on passe à un peuple, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, vous avez tous les premiers livres, hein, Lévitique, Exode, Nombre, etc., qui en parlent. Lévitique, c'est la deuxième loi. Donc, ce que je vais dire, vous relisez ces livres-là et vous verrez que ce modèle-là traduit cela. Première chose qu'il demande à Moïse, tu établiras un sacrificateur. Mais ce ne sera pas toi, ce sera Aaron. Alors, bon, pour être complet, Melchisédek, il avait déjà anticipé ça. C'est pour ça que Jésus est selon l'ordre de Melchisédek. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais c'est juste pour dire que le modèle va jusque-là en intégrant l'ordre de Melchisédek. Donc, sacerdoce. Le sacerdoce sera séparé. Ils sont séparés, ils fondent le un, Jésus-Christ, le Messie, mais ils sont séparés, ils sont différents. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le sacerdoce ne peut pas être tenu par le conducteur. Sinon, c'est une profanation. Et c'est ce que Saül a fait. Vous le verrez tout à l'heure. C'est une profanation. C'est-à-dire qu'on profane le modèle que Dieu a établi. C'est une profanation. Donc Aaron est ici. Sauf que, normalement, Aaron aurait dû laisser la lignée jusqu'à Jésus. Et en fait, elle s'est interrompue quand ? Quand est-ce que c'est interrompu ? Cet ordre d'Aaronique, si vous voulez, qui est les Lévites, hein, qui ont... Non, ça ne vous dit rien ? Pardon ? Alors, je vais vous donner une piste, je ne sais pas si vous avez trouvé. Au temps de Jésus, il n'a pas rencontré les Aaronistes, il a rencontré les Sadducéens. Vous connaissez les pharisiens, les Sadducéens ? Les Sadducéens, c'est les gardiens du temple. C'est-à-dire, c'est eux qui étaient responsables des sacrifices. Ça veut dire, ça sort d'où ce mot sadducéen ? Tzadok. Bien. J'ai le bon élève au premier rang, c'est bien. Tzadok. C'est un descendant de Tzadok. Et Tzadok, quand est-ce qu'il a remplacé Aaron ? Ah, il a toutes les réponses. Ouais. Il y avait en fait deux sacrificateurs au temps de Samuel et de David, c'était Abiathar et Tzadok. Le problème, il y avait deux sacrificateurs, parce qu'ils étaient tirés un peu au sort, je crois, qui étaient descendants d'Aaron. Et David a eu un problème avec Abiathar, parce qu'il était du côté de son fils qu'il a trahi, qui s'appelle Absalom. Absalom. Et du coup, il ne pouvait plus, parce qu'il avait manqué de loyauté envers David, il ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Et du coup, c'est tombé sur Tzadok. Mais sinon, ça aurait été Abiathar. Vous voyez ? Il y a des lois, des règles de loyauté dans la Bible. Et Dieu veille à ça. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai parlé du mariage tout à l'heure. Moi, je ne pouvais pas faire n'importe quoi devant Dieu. Je sais que je devrais répondre de ce que je fais à Dieu dans mon ministère. Donc, il faut faire attention à ne pas profaner ce que Dieu a sacralisé. Donc ici, Tzadok remplacera Aaron et il restera jusqu'à l'arrivée de Jésus, les Sadducéens. Vous avez vu que les Sadducéens étaient hellénistes. Hein. Ils avaient le dualisme grec. Hein. Ils ne croyaient même pas à la résurrection. Donc, vous voyez l'influence de la culture sur le modèle théologique. Et le troisième volet, c'est le peuple prophétique. C'est tout le peuple. C'est le peuple qui va sortir d'Égypte, qui va rentrer dans Canaan. Et vous avez vu que Dieu a empêché le peuple de rentrer parce qu'il y avait de l'incrédulité. Il n'y avait que 2 sur 12 qui ont cru que Dieu pouvait les faire entrer dans Canaan. Les autres, ils avaient peur des géants. Est-ce que nous avons peur des géants ? Alors que la parole de Dieu dit en Éphésiens 6, 12, que Jésus a vaincu toutes les autorités, toutes les puissances. Ce qui fait que si nous avons peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre foi. Et venons au Seigneur, dire Seigneur, fortifie ma foi. Parce qu'il n'est pas question d'avoir peur, alors que Jésus est au-dessus de toutes les autorités, les puissances. Et tout ce qui est fait, aussi bien matériel que spirituel. Jésus a dit à la tempête, arrête-toi. La tempête s'est arrêtée. Vous voyez, il a autorité sur tout. Donc il a autorité sur vos problèmes, sur vos difficultés. Faites confiance à Jésus. Parce que la particularité, c'est que Jésus, quand il est venu sur terre, donc maintenant je parle à l'Église, quand Jésus est venu sur terre, Jésus est le seul à pouvoir cumuler les 3 offices. Jésus, aujourd'hui, il est roi, il est prêtre ou sacrificateur, si vous voulez, et prophète. Il est les 3 cumulés. Mais quand il est venu, c'était l'accomplissement du royaume. Ce n'était pas la consommation du royaume. La consommation du royaume, on l'attend à son retour. Mais dans l'accomplissement du royaume, le démarrage du royaume sur terre, Jésus de cet office qu'il a de toute éternité, selon l'ordre de Melchisédek, il a incarné ces trois offices. Ici, non seulement il était souverain sacrificateur, mais il était l'agneau du sacrifice. Voyez-vous, Jésus a montré l'exemple. C'est pour ça que ce modèle, c'est un exemple. Jésus n'a pas simplement parlé, il a agi. Est-ce que vous, vous parlez ou vous agissez? Vous faites les deux. C'est la cohérence entre la foi et les œuvres. Je te montrerai mes œuvres et tu verras ma foi. Je te montrerai ma foi et tu verras les œuvres. C'est les deux choses en même temps. Jésus, il a œuvré. Il a agi. Dans ses trois offices, il s'est livré comme un agneau. Ici, il était un serviteur conducteur. Dans l'avenir, quand la consommation des siècles sera arrivée, il sera un roi glorieux, mais il a d'abord été serviteur. Et ça nous parle, aujourd'hui dans l'Église. Si les conducteurs ne sont pas des serviteurs, ils ne sont pas selon ce modèle. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude, parce que quand on est dans le combat spirituel et que Abraham Keith m'a dit « Je te donne le meilleur livre », il était quelqu'un de CFNA et avec Marc Brisebois, il dit « Je te donne le meilleur livre que j'ai trouvé sur l'organisation de l'Église ». Et sur voilà. Et là, c'est marqué « serviteur-leader ». Serviteur-leader. Pas leader-serviteur, rien. C'est serviteur-leader. Vous pouvez être leader, qu'est-ce que vous êtes serviteur? Dans l'autre sens, vous êtes en danger. Jésus était serviteur, et à la fin des temps, il sera roi des rois, seigneur des seigneurs, dans toute sa gloire. Il est déjà au ciel, mais il n'est pas encore sur la terre, puisque c'est le prince de ce monde qui agit sur la terre. Mais quand il est venu, il était serviteur. Et là, qu'est-ce qu'il était? Prophète. Il parlait de la part de Dieu pour établir un peuple, des disciples, qui allaient être ceux qui vont être prophétiques. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance de Dieu, puisqu'il était en relation avec son Père, et il enseignait. Le prophète enseigne, essentiellement. L'Église, vous, chacun de nous, y compris moi, hein, je ne suis pas au-dessus de vous, bien, nous sommes appelés dans ce monde à enseigner les nations. Mais pas enseigner en disant, voilà, un tableau, etc., voilà comment ça marche, etc. Enseigner, ça veut dire, par notre relation avec Dieu, les autres voient que nous connaissons le Père. C'est dans le témoignage, c'est dans l'ambassade. Nous sommes dans une ambassade ici. Nous ne sommes pas acceptés du monde, parce que sinon il y aura un mélange entre le monde et le royaume de Dieu. Et Jésus a très bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, en attendant le retour du Seigneur, nous sommes en pays hostile. Nous sommes en pays ennemi. Nous sommes en pays qui n'est pas accepté de la part. Et ça ne change pas, ce n'est pas parce qu'on est au XXe siècle que ça a changé. Depuis la venue de Jésus jusqu'à son retour, ça sera comme ça. Et je peux vous dire que ça va empirer. Et vous le savez très bien, les dérives morales. Donc, on a besoin d'être sur nos genoux pour être de plus en plus capables d'être des ambassadeurs. Sinon, on va se mélanger au monde. On va faire du syncrétisme. Et on va rentrer dans le dualisme dans lequel on est déjà plongé. Hein. Donc, pas grand-chose à faire pour l'utiliser. Donc ici, Jésus enseignait en tant que prophète. Et tout le monde a reconnu que c'était un prophète. Même ceux qui ne l'aimaient pas. Tu es un prophète de Dieu, parce que sinon tu ne pourrais pas faire les œuvres que tu fais. Ça, il était reconnu. Mais aujourd'hui, c'est nous. C'est-à-dire que Jésus a passé la main à l'Église. Et en passant la main à l'Église, eh bien, nous sommes dans ces trois offices que nous devons remplir. L'office de sacrificature, qui est que nos lèvres confessent le nom de Jésus, que nous louons le Seigneur. C'est pour ça qu'on fait Moving Glad. Parce qu'on croit à ce qu'on dit et on dit ce qu'on croit. C'est une cohérence. Et dans la cohérence, eh bien, on veut dès maintenant être des gens qui sacrifient à Dieu la louange et l'honneur qui lui sont rendus parce qu'on anticipe l'histoire qui nous attend. Si on y croit à cette histoire, eh bien, on est là avec les frères et sœurs pour louer le Seigneur. c'est pas un jugement. Simplement, on prie, je prie pour que vous ayez cette compréhension. C'est pour ça que je développe ce modèle. Ici, on est sacrificateur. Et on le sera dans l'éternité. Ça ne changera pas. Jésus, lui, est le souverain sacrificateur. Et nous, on sera des sacrificateurs pour toujours, parce qu'on aura toujours l'agneau immolé dans l'éternité, qui est celui qui nous a sauvés, notre sauveur et Seigneur. Ici, il y a des conducteurs. Il y a des conducteurs. Aucune société peut fonctionner sans conducteur, sans leader, sans quelqu'un qui tire et qui est responsable du bien commun. Le bien commun de l'Église, c'est ça. Le bien commun que Dieu donne, et là, on en parlera plus longtemps dans les développements avec Georges Lade, c'est des conducteurs. Mais ces conducteurs doivent être serviteurs. Moi, je demande au Seigneur d'être serviteur, de vous servir, et pas de me servir. Saül, à un moment donné, il s'est servi. Yes. Et là, Dieu, il a dit, c'est terminé. Il a perdu l'onction qu'il avait reçue. Et l'ennemi va tout faire pour que les conducteurs se servent. Se servent dans la caisse. Se servent des gens pour les dominer. Se servent. Et il y a tout un tas de livres, hein, qui sont écrits sur l'abus spirituel. Je ne vais pas citer tous les livres, mais tout le monde a vu ça un peu comme une malédiction. Un peu comme si, oui, c'est une malédiction, parce que l'ennemi, il est là, l'ennemi il tente. Mais serre-toi. Il y a même, au XXe siècle, un gars qui a été signalé par, je ne sais pas si c'est Churchill, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire, donc je peux me tromper dans les noms, qui a dit l'homme le plus horrible de l'Angleterre, qui a toujours existé, c'est Aleister Crowley. Il y en a qui ont entendu parler de ce nom? Aleister Crowley. Bah, regardez sur Internet. Il porte un chapeau en triangle avec l'œil, le troisième œil, le front. Et il a écrit quelque chose qui n'a jamais existé, c'est la Bible satanique. Il a écrit la Bible satanique. Ça n'existe pas depuis 2000 ans, ça existe depuis 1950, quelque chose. Il a écrit. Et moi, j'étais frappé. Sur Internet, vous avez tout maintenant. Bible satanique, premier commandement. J'ai dit, bah, faut servir Satan. Non, sers-toi toi-même. Première, c'est vachement bien. Serre-toi toi-même. Attends, c'est humaniste, ça. C'est aimer l'homme, c'est aimer... Le gars le plus satanique qui a toujours existé dit, serre-toi toi-même. C'est la même chose que Satan, que le serpent a dit à Ève, rappelez. Serre-toi. Ça ne te fera pas du bien, tu ne vas pas mourir. Non, non, Dieu n'a pas dit ça. Tu as mal compris. Il faut comprendre les choses autrement. La parole de Dieu, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Vous voyez la séduction et la roublardise. C'est l'ennemi, le père du mensonge. Ici, les conducteurs doivent être des serviteurs. Et avec Michel, on demande à Dieu la grâce d'être jusqu'au bout des serviteurs de la parole. Et dernier point, un peuple prophétique. Ça s'adresse à tout le monde, y compris à moi. Peuple prophétique. Comment est-ce que je suis ambassadeur sur ce monde ? Comment est-ce que j'agis avec mon voisin de palier? Comment est-ce que j'agis avec mon voisin conjugal? Ça commence déjà comme ça. Comment est-ce que j'agis avec mes collègues de travail? Comment est-ce que j'agis dans ma commune? Comment est-ce que... Vous voyez? Est-ce que je suis prophétique? C'est-à-dire, est-ce que j'anticipe le royaume de Dieu qui va venir maintenant? C'est nous. C'est pas le monde. C'est pas les autres, c'est nous. Quel est mon comportement? Comment est-ce que j'agis? Est-ce que c'est de Dieu ou pas? Et ça, c'est tous les jours qu'il faut se poser la question. C'est pas faire un bilan une fois par an, c'est déjà c'est bien, il y en a qui font jamais de bilan. Mais tous les jours, Seigneur, est-ce que j'ai été un bon ambassadeur de ton royaume? Ça, c'est quelqu'un qui a conscience d'être ambassadeur. Demandez à Colette, elle en a fréquenté des ambassadeurs. C'est une charge très lourde. Il doit représenter son pays dans les moindres détails. Et s'il faillit, on le ramène. T'es pas bon, j'en mets un autre. Voilà donc le modèle qui s'applique à la création et je pourrais faire la même démonstration sur la matière, sur la physique quantique et basée là-dessus. Énergie, matière et espace et temps, etc. Avec Edgar Morin sur la complexité, c'est pareil, c'est de l'information, et, etc. Tout est basé en Christ. Tout est centré en Christ. Tout a été fait en Christ. Donc, revenons à l'Église. L'Église, lorsque Jésus a passé la main, il a dit à Pierre, « Tu es Pierre, Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon Ecclésia. » Bâtirai mon Église. Je bâtirai un peuple qui va témoigner de mon amour à ceux qui ne le connaissent pas, qui va témoigner de ma grâce à ceux qui sont dans le monde. Voyez-vous ? Donc tout ça, ça prend du sens quand on est sur le bon modèle. Alors, ici, c'est le modèle égyptien. Modèle égyptien, il est africain. Toute l'Afrique est imbu de ce modèle politique, si vous voulez. Nous, le modèle politique, c'est celui-là, en Occident. Pourquoi ? Parce que on était chrétien très tôt, avec Constantin et avec Clovis. Donc avec Constantin, et prenons Clovis après, parce que Constantin, il y a eu un autre empereur qui n'a pas suivi Constantin. Mais Clovis, c'était le départ de la monarchie institutionnelle de l'Ancien Régime qui a duré jusqu'en 1789 chez nous. Voilà. Et cet Ancien Régime, eh bien, en fait, il était dualiste. Alors, revenons sur Pharaon. Pharaon, lui, qu'est-ce qu'il peut me dire ? Ce qu'il croyait qu'il est, mais aussi que tous les Égyptiens croient qu'ils sont. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent l'égyptologie, etc. Qu'est-ce que représentait Pharaon ? Ra ? Oui, c'est l'incarnation du dieu soleil. C'est Ra, Horus, c'est l'incarnation du dieu soleil. Donc, en fait, on croyait, c'est pour ça qu'on... Voilà, c'était une vénération, une adoration du peuple égyptien, c'est de croire que Pharaon... Eh bien, tous les pharaons, si vous voulez, alors ils cherchaient... que Pharaon était l'incarnation du dieu soleil, l'incarnation de la divinité. Mais, vous voyez, dieu soleil, c'est du panthéisme, c'est-à-dire c'est un dieu impersonnel, c'est pas un dieu personnel. Quelles étaient les attributions au niveau des offices du pharaon ? Quelles sont les attributions ? Concernant les trois offices, roi, prêtre et prophète. Allô ? Pharaon ? Quels sont les offices ? Roi et... Non, prophète, il avait des prophètes à côté de lui, c'était les magiciens, c'était, voilà, prêtre. Il était roi et prêtre. Dans... C'est intéressant de s'intéresser à l'histoire, vous voyez ? Parce que l'histoire, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. C'est pas spéculation. Voilà. Il était roi et prêtre. Je fais un saut, parce que le temps presse, en Afrique. Et les Africains me diront si je me trompe ou pas. Toute la compréhension politique du régime, c'est que on est roi et prêtre quand on a l'autorité. Et c'est pourquoi les pasteurs africains se croient roi et prêtre. Méditez là-dessus. Vous allez voir. Et le peuple, c'est le populos. C'est Populos, ignare, comprend pas, etc. Moi j'ai l'onction, etc. Hey, l'histoire de l'onction, etc. Et puis je vais vous apprendre, etc. Et c'est tout à fait un modèle différent. C'est pas un modèle participatif, c'est un modèle toi tu sais pas, moi je sais, et je vais t'apprendre. Et donc tout ça. Alors en Occident, c'était plus subtil. Mais j'ai beaucoup cherché jusqu'à ce que je trouve la faille en Occident. En Occident, normalement, il y a la religion, catholique, va sans dire en France et dans les pays latins, et la royauté. Vous êtes d'accord ? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la royauté et la religion et le sacerdoce ? Pardon ? Dès le départ, dès Clovis, la première action que Clovis a établie, avec l'aide de l'Église catholique, qui c'était Rémi à l'époque, hein, c'est pas toi Rémi, c'est Rémi de Reims, Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a toutes les réponses. Une alliance. Et c'est une alliance sur un rêve que Rémi a eu. Et l'alliance, et je suis presque sûr que cette alliance est en cours dans le coffre-fort du président de la République et quand ils font la passation des pouvoirs. Je pense. Je ne peux pas vous le certifier. J'ai pas d'espion pour regarder. Mais je pense, parce que j'ai vu que Lionel Jospin, quand il voulait accéder à la présidence, il était saqué parce que il s'est mis contre l'Église catholique. Et du coup, paf. Bon, ça c'est mon analyse personnelle. Je ferme la parenthèse. L'alliance de Clovis, c'était une alliance où, c'est marqué noir sur blanc, regardez sur Wikipédia, tout est connu, l'Église va sacrer le roi avec une huile d'onction, donc il va sacrer comme dans David. Là, on a pris le modèle davidique en pensant que l'Ancien Testament, c'était le modèle à prendre. On le sacre, mais une fois qu'il est sacré, il doit faire des vœux pour qu'il protège l'Église avec son glaive, parce qu'on ne veut pas toucher le glaive, vous voyez, c'est jésuite, ça. Il ne veut pas toucher le glaive, mais lui, il va prendre le glaive pour moi. Donc, il va brûler les hérétiques. Il va tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, etc. Et donc, on reproduit le modèle pharaonique. Sauf que c'est au travers d'une alliance. Une alliance entre une religion d'État et une royauté nationale. Je ferme aussi la parenthèse, il y aurait trop de choses à dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? C'est là où je voulais en venir. Comment peut-on expliquer la dérive de Saül? Eh bien, si vous reprenez le modèle de l'Ancien Testament, dans lequel était Saül, rappelez-vous d'ailleurs une chose, c'est que quand Samuel a dit « Le peuple demande un roi », il est allé vers Dieu, et il a dit « Moi, je ne suis pas d'accord, Saül ». Dieu a dit « Je ne suis pas d'accord non plus, mais donne-leur un roi. Ils verront ce que c'est qu'un roi. » Voyez-vous ? Il a cédé Dieu. Mais parce que Dieu sait retrouver la stratégie de la rédemption. Et en fait, il n'y a qu'un seul roi qui a été conforme au Messie, c'est David. Tous les autres rois, j'ai étudié ça un temps longtemps, c'est incroyable, c'est aucun roi qui a pu être comme David, parce que David, Dieu l'a choisi pour être un type de Christ. Tous les théologiens s'accordent là-dessus, c'est un type de Christ. Ce n'est pas lié à David, c'est que Dieu a choisi un type de Christ. Il voulait annoncer la venue de Jésus qui allait entrer sur le trône de David et pour accomplir les prophéties. Voilà toute l'explication du choix de David. Donc, quand Saül a été choisi, Saül était roi. Mais il ne pouvait pas être sacrificateur en même temps, sinon c'est une profanation du modèle que Dieu a donné à Moïse sur le tabernacle. Et là, c'est tout un autre développement sur le tabernacle qu'il faudrait faire pour comprendre que ce modèle, c'est le modèle du tabernacle. Donc, il avait un sacrificateur. Et le peuple était prophétique. Et le jour où il a pris la place du sacrificateur, qui revenait à Samuel. Bien sûr, il était coincé parce qu'il avait une armée en face de lui qui était bien plus nombreuse. Donc, il avait de quoi avoir peur. Comme quoi, faites attention à la peur. La peur vous fait faire des mauvais choix. Et il avait peur. Et c'est ce qu'il a dit à Samuel. Samuel a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu devais m'attendre pour donner des sacrifices. C'est dans la loi. Et la loi, c'est pas une loi, il faut, c'est simplement parce que c'est le modèle. C'est le modèle que Dieu donne pour que les choses correspondent au modèle de Christ. Il a dit, parce que tu as fait ça, eh bien, Dieu te retire ta royauté. Terminé. Voyez-vous, pas grand-chose. Rappelez-vous Moïse quand il a frappé le rocher. Il a fait une profanation à l'égard de ce qui allait se passer avec Christ. Donc, quand on fait une erreur, et c'est pour ça que faisons attention, il y a des erreurs qui ne sont pas de nature mortelle, mais il y en a qui sont de nature mortelle. Quand vous touchez à la sacralité, au sacerdoce, aux choses sacrées que Dieu a établies, vous êtes en réel danger. Et c'est pour ça que prendre la Sainte Cène de manière non correcte, ça vous met en danger. Ce sera un autre message. Saül, il avait un sacrificateur, Samuel, qui n'a pas respecté. Et Samuel, dès qu'il est arrivé, c'est pas deux fois, c'est la première fois, a dit, ton trône est retiré. Tu ne peux plus siéger sur le trône d'Israël parce que tu as fait ça. Reprenez le texte que Michel vous a commenté il n'y a pas longtemps. Donc, Saül s'est fait roi et prêtre d'un pharaon. Il est rentré dans le modèle dualiste. Roi et prêtre. Il a cumulé les deux. Et c'est justifié. Oui, mais le peuple, tu comprends, il était après moi. Oui, justifié. On ne se justifie pas devant Dieu. On obéit. Jésus était soumis à la parole. J'étais soumis. La soumission est absolument capitale dans ces domaines-là. Et si on n'a pas pris la soumission, on s'expose à ce qui s'est passé avec Samuel, avec Saül. Saül s'est fait roi et prêtre et il a désobéi à plusieurs reprises avec arrogance. Par la suite aussi, pour d'autres sacrifices qu'il ne devait pas faire contre les Amalécites, il s'est de nouveau justifié. Vous savez, une fois qu'on est dans l'erreur, après, c'est très difficile quand on ne se repent pas. La repentance. David s'est repenti quand il a assassiné. Quand il a assassiné, il s'est repenti. Et il est retourné en grâce dans le Seigneur. La repentance. Hier, Ruben l'a rappelé, c'est absolument capital. Saül s'est jamais repenti. Et du coup, il a terminé dans ce modèle-là. Oui. Dernière chose, et je termine là-dessus, Salomon. David, revenons sur David et Salomon. David, il a respecté ce modèle. Lui, David, était roi conducteur. Ici, il y avait, comme je l'ai raconté tout à l'heure, Tsadok, et Abiathar, mais comme Abiathar a soutenu son fils Absalom, il a choisi le mauvais cheval. Dieu a choisi David, pas Absalom. Donc il faut faire attention dans nos choix. Attention. C'est une autre ouverture vers un autre message. Et du coup, c'est Tsadok. Notre Tsadok, il a toujours respecté. David n'a jamais pris le rôle du sacrificateur. Il a respecté ce que Dieu a dit. Et le peuple, c'était un peuple qui pouvait, David a respecté le peuple, il était près du peuple, il dansait, même sa femme l'a, comment on appelle ça, méprisé. Ouais, t'es avec le peuple, alors que tu dois être dans le palais royal. Vous voyez ? Non, il était serviteur. La différence, c'est qu'il était serviteur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, parce qu'il a travaillé son service dans l'humilité. Et il s'est repenti quand il fallait se repentir. La repentance pour un conducteur qui n'est pas une réalité, c'est du fake. Vous rappelez les fake news ? C'est du fake. Une vraie repentance permet de garder une vraie humilité. Parce qu'il y a des fausses humilités. Vous le voyez dans le regard des gens. C'est une fausse, une vraie. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Parce qu'ils sont aveuglés. Mais David, c'était une vraie humilité. Et quand Nathan est venu le voir, donc le prophète, quand il est venu le voir, il a dit, tuez cet homme. Il n'a pas rebuffé. Il aurait pu dire, mais non, comme Saül, ouais, c'est à cause des hommes, parce qu'il y a eu la pression sur moi, machin. Tuez cet homme. Paf, il est tombé, il s'est repenti. Plus rapidement vous repentez, plus rapidement vous avez les chances de sortir et de ne pas devenir un Saül et pas tomber dans le dualisme. Le dualisme, c'est manichéen. Le dualisme, c'est satanique. Le dualisme, c'est une division. Alors que le premier modèle, c'est une cohésion. C'est une unité. Le père du mensonge, le diable, qui s'appelle Zweifel en allemand, c'est le double, il entretient ce modèle-là. Il entretient dans vos comportements les uns par rapport aux autres. Quand Michel et moi, on était confrontés avec Sonia, on a utilisé le premier modèle. C'est ce qui explique que c'est complexe. Parce que la réalité est complexe. Vous avez vu les étoiles, vous avez vu toutes ces choses-là ? Eh bien, il faut accepter la complexité, parce qu'elle est vraie. Le dualisme, c'est catastrophique, parce que ça divise. Et nous, on a connu la division dans l'Église. Avec Michel, on a dit, on sera pasteur que si ça s'arrête. On n'est pas là pour que l'Église se divise. Vous vous rendez compte ? Un conducteur qui accepte ça ? Eh oui, un dualisme. Si vous avez ce modèle-là, vous ne pouvez pas faire autrement. Les pasteurs souvent viennent me voir, parce que je suis tout le temps dans les pastorats. Ah, il y a ça, puis ça recommence. Puis les pasteurs, ça fait 6 fois qu'ils ont des divisions. Je dis, mais t'as rien appris là ? Ils n'apprennent rien. Ah, ben non, on commence. Et hop, voilà. Oui, parce qu'ils sont dans un modèle dualiste, ils ne s'en rendent pas compte. Le dualisme, c'est la sagesse de l'homme. Cette façon de raisonner, c'est la sagesse de Dieu, c'est Christ. Toute sagesse est en Christ. Et quand on utilise ce modèle, eh bien, on est gardé. Alors, terminons par Salomon. J'ai plus le temps de lire les passages, je vous les laisse. Dans 1 Roi 1:35 et dans 1 Roi 2, de 1 à 4, il y a le passage du témoin entre David et Salomon. Lisez bien ce passage chez vous. Et vous verrez que ça s'est fait dans l'ordre, dans la bienséance. Il y avait là les sacrificateurs, il y avait là les prophètes, il y avait là David. Et les choses se sont faites dans l'ordre pour passer le témoin à Salomon. Vous voyez, ça ne s'est pas fait en cachette, ça ne s'est pas fait comme avec Saül, où Dieu a dû utiliser Samuel pour oindre David en cachette, etc. Vous voyez bien, c'est quelque chose qui s'est passé de bizarre. Hein. Cherchez l'erreur et vous la trouverez. Hein. Je ne parle pas du fil du mensonge, mais pratiquement c'est ça. Salomon, il a bien commencé comme ça. Il a bien commencé comme ça. Mais pourquoi il a terminé dans le dualisme qui s'est pris pour Pharaon, roi et prêtre? Parce que il a établi tout plein d'hôtels autour de lui, des hôtels à Astarté, des veaux d'or et tout ça. Mais comment ça s'est passé? Il n'aurait jamais pu le faire dans le premier modèle. David, son père, il n'a jamais fait ça. Pourquoi Salomon, il a fait ça? Parce qu'il a méprisé. Il a méprisé le modèle de Christ, qui est déjà anticipé à l'époque de l'Ancien Testament. Il a méprisé et il est rentré là-dedans. Il a adoré les idoles. Il s'est... Ça, c'est les femmes. Hein. Il s'est ouvert aux femmes. Bon, il y avait une faiblesse là-dedans. L'ennemi le sait, hein, la faiblesse. Ce n'est pas tous les mêmes. Il le sait. Et hop, il a fourgué les femmes, les alliances, machin. Et puis, il était obligé d'adorer le Dieu de ses femmes. Parce que vous savez, les femmes, hein, on dit que si la femme et Dieu sont d'accord, vous êtes foutus. Hein. Bon, c'est un joke. Salomon était piégé par les femmes. Et les femmes ont amené les idoles d'Astarté, de tout un tas de... Chaque femme avait ses idoles, etc. Et du coup, il est devenu prêtre. Eh bien, il est passé de la royauté pure et il a établi des sacrifices aux idoles. Chers amis, nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Rien n'a changé. Dieu ne change pas. Christ ne change pas. Dieu a établi toutes choses en Christ, sur Christ, avec Christ et en lui. Nous sommes en lui, en lui. Et si nous ne respectons pas ce que Dieu a établi, nous sommes morts. Sauf si nous nous repentons. La repentance aide toujours à changer de situation parce que Dieu est venu à la croix pour nous pardonner. Mais si nous ne le faisons pas, Samuel s'est jamais repenti. Et il a terminé en catastrophe. À tel point. Pardon ce... Non, là je parlais de Salomon. Parce que Salomon, à la fin de Salomon, le royaume s'est divisé. Parce que le peuple... qui aurait dû être honoré. Dans cette phase-là, le peuple est honoré, il est prophétique. Ce n'est pas le populace qu'on méprise, etc. Le moindre d'entre vous doit être honoré. Le moindre d'entre vous. Et je dis ça avec beaucoup de respect. Le moindre d'entre vous doit être respecté, parce que Dieu vous respecte. Et parce que Dieu a créé toute chose pour sa gloire. Et Salomon... En fait, il a opprimé le peuple. Comment est-ce qu'il a opprimé? Avec toutes ses femmes, avec toutes ses idoles. Il devait en construire des choses. Donc, il collectait des taxes. Ça n'a pas changé. Hein. Gilets jaunes, ça vous dit quelque chose? On collecte des taxes pour renflouer l'État, pour renflouer les élites, pour renflouer le pouvoir. Pouvoir pourquoi? Pour servir, on n'a pas besoin de pouvoir. On prend la bassine... On lave les pieds des autres. Vous voyez, ça coûte pas cher, ça. Ça coûte cher, ça? Non, mais réfléchissez un petit peu, vous qui allez voter bientôt. Et les gilets jaunes sont victimes de ce dualisme. Sont victimes de ces élites qui se croient au ciel, Jupiter et compagnie. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus encore, mais bon, c'est déjà assez élevé. Et ici, le peuple qu'on méprise. Ça n'a pas changé. On est dans un dualisme. Si on l'était ici, il y a seul Jésus-Christ, quand il va venir, qui est sur les trois offices, eh bien, il va établir ça. Pour l'éternité, on sera sacrificateur, roi et prophète, avec Christ, soumis à Christ. Et Salomon, eh bien, il a terminé en collectant les taxes, en opprimant le peuple. Et la première chose qui s'est passée quand il est mort, il a dit, il y en a marre. Et la marre, on va chercher un autre roi et on va diviser. Nous, on va rester Israël et Juda. Et ça a été séparé. La division. Ce modèle amène de la division. Il est du diable. Il est diabolique. Alors je prie, pour ce qui me concerne, pour que chacun d'entre vous puissiez passer du modèle dualiste au modèle du Seigneur, au modèle de la Bible. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Pour moi, j'ai mis 30 ans pour passer de l'un à l'autre, parce que le Seigneur m'a travaillé. Au travail, ça a commencé au travail. C'est au travail que le Seigneur m'a parlé. C'est pour ça, ceux qui sont au travail, mais réunissez-vous pour parler de ça. J'ai rien contre les jeux, il faut que tout se fasse, mais parlez des choses vraies, ce que vous vivez au travail, les difficultés que vous rencontrez, etc. Et c'est au travail que moi j'ai appris ce modèle-là. Je dis, waouh, les inconvertis, ils ont ce modèle-là. Je dis, mais t'es jaloux. C'est une horreur, quoi. Les chrétiens, les pasteurs, tout ce que je vois, ils connaissent pas ce modèle-là, ils sont là-dedans. Ils se plaignent qu'il y a des divisions, ils se plaignent que les moutons les mordent, etc. J'ai eu ça avec un pasteur qui m'a dit, ah, les moutons, ils mordent. Je dis, attends, ils mordent pas si tu en prends soin. Hein si les moutons se respectaient, ici, bien sûr, ici, ils vont mordre. Forcé. Tout est fait pour qu'ils mordent. Tout est fait pour qu'il y ait une division. Tout est fait pour que les élites et le peuple se chamaillent. C'est fait pour. C'est prévu pour. C'est dans le modèle. Alors sortons de ce modèle, je vous en prie. Et soyons de ceux qui sont établis sur Christ, par Christ et en Christ. Amen. Seigneur, je te prie, afin que tu nous aides. Tu nous aides à revenir au modèle biblique. Celui qui est oint, celui qui est consacré par toi, que tu as modélisé toi-même lorsque tu es sur la terre et que tu nous as confié en tant qu'Église pour que nous soyons témoins de ce modèle qui est un modèle, Seigneur, qui apporte la paix, qui apporte la sérénité, qui apporte l'encouragement, qui apporte le réconfort, qui permet à chaque chrétien d'entre nous d'être des ambassadeurs là où tu nous as appelés. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce modèle pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen.